France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, pour terminer le fil rouge autour de Jean-Sébastien Bach présent ce dimanche soir et toute cette semaine sur les ondes de votre station de radio préférée, laissez-moi vous conter l'histoire et les visages d'un genre bien particulier, celui de la Passion. Le récit des dernières heures de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, on pense bien sûr à Jean-Sébastien Bach, qui n'a pourtant pas inventé ce genre de la Passion. Il est d'ailleurs plutôt un des derniers à en composer, chronologie oblige. Ces opéras sacrés, dérivés de la tradition médiévale des mystères, perdent pas mal en ferveur au fil des siècles, c'est le cas de le dire. Sauf qu'arrive la fin du XXe siècle, et avec elle, un torrent de remises en question musicales et esthétiques. Il faut trouver des moyens pour aller après la modernité furieuse héritée des Boulez et autres Stockhausen. Les postmodernes, par exemple, n'hésitent pas à écrire des accords tonaux quand ils en ont envie ou lorsque les raisons dramaturgiques le nécessitent. Alors, quoi de mieux pour se donner un nouvel élan que d'écrire une passion ? Après tout, si on prenait le prétexte de la Passion du Christ comme un simple livret, on pourrait faire de sacrés opéras. C'est un peu ce que sont la Passion selon saint Matthieu et la Saint-Jean de Bach quelque part. Lorsque l'on compose une passion contemporaine, on ne peut pas refuser l'héritage de Jean-Sébastien Bach. Non, c'est impossible. Il faut jouer avec, le prendre comme une base, un socle inaltérable, et construire son propre monde par-dessus, comme les fondations d'une nouvelle maison. Alors, sans trop en divulguer, évidemment qu'une passion contemporaine, ça va chanter. Évidemment qu'il y aura des instruments, un chœur et des chanteurs solistes. Mais comment ? Pourquoi ? C'est parti pour sept visages, cette passion d'aujourd'hui. À l'aube des années 80, le maître estonien Arvo Pärt quitte l'URSS. Sa musique ne convient définitivement pas au régime communiste. Son hiératisme orthodoxe sempiternel et son émotion tendue comme un fil de vie ne passent pas. En transit pour Vienne, et comme un chant d'adieu à son pays qu'il s'apprête à quitter pour de nombreuses années, Pärt se lance dans l'écriture d'une passion selon saint Jean. Lui, le poète des tintinabulations qui résonnent comme des paysages spirituels immenses, aborde avec ferveur sa première grande forme. C'est d'ailleurs la seule fois où le compositeur se lancera dans un monolithe de 70 minutes sans interruption, à la verticalité post-médiévale qui évoque le parfum de statues de sel et de glace. Difficile de passer à côté de l'héritage laissé par un tel genre. Pärt s'embarque alors ni une ni deux dans les stéréotypes du genre. Le texte en latin est directement celui de l'évangile. Jésus est chanté par une basse, dont les interventions sont entourées d'un halo d'orgue. Un grand chœur mixte commente l'action. Mais ce qui fait le parfum si particulier de l'œuvre, c'est son petit ensemble instrumental, comme un continuo baroque, et surtout son chœur d'évangéliste, dans lequel on reconnaît notamment le timbre d'un contre-ténor. Préfigurant les oratorios de John Adams, on en reparlera tout à l'heure, Pärt écrit dans ses parties sans doute sa musique la plus tranchante. Les quintes et les quartes y sont d'une pureté qui coupe comme les feuilles du papier du livre avec un grand L. Arvo Pärt était hanté par la religion et le spirituel. C'est pour ça qu'il se sentait si proche du genre de la passion. Mais pour composer une bonne passion, ne faut-il pas surtout se sentir proche du grand Jean-Sébastien ? Vous êtes la société Bach. Vous souhaitez commander une série de passions qui vont célébrer l'arrivée de l'an 2000 et les 250 ans de la mort du génie baroque. Évidemment qu'en premier lieu, vous allez penser à commander une œuvre à la grande compositrice russe Sofia Gubaidulina. On a le chœur, on a l'orchestre, on a la voix de basse. Pour l'instant, on est bon. Cependant, Gubaidulina essaie de ne pas faire exactement comme tout le monde. Le texte sacré est croisé avec un autre passage de l'évangile de Jean. Et quel passage ! L'Apocalypse est sans doute le texte le plus imagé et parfumé des Écritures. On va des flammes aux senteurs capiteuses jusqu'aux cendres les plus amères. Gubaidulina, à l'époque à la recherche d'un nouveau souffle dans ses compositions, plus lyrique, plus hédoniste aussi, utilise un savant croisement des deux textes saints pour aboutir à une passion d'une noirceur terrible où la langue russe et le lyrisme décharné font presque penser aux 13e et 14e symphonies de Shostakovich, mais qui semblent passer comme au travers d'un filtre iridescent.
Подобен я спису и сардису. всеми печатями.
Partie d'un diptyque sacré, 1h30 sur la Passion, 1h30 sur la Résurrection, la Passion selon saint Jean de Goubaïdoulina est un monument, une cathédrale orthodoxe faite d'éclat et de lyrisme, avec ses coupoles, ses dorures et son mystère plein de noirceur. Tenez, le début de la scène du Golgotha. C'est simple, plus que de gravir les pentes de la colline biblique, on a l'impression d'entrer dans un long tunnel qui nous mène au Goulag, ou, avec un peu plus de 20 ans d'avance, en Lamalie, à 3 heures d'avion de Moscou, plus loin que le cercle polaire, au camp IK3, celui où l'opposant Alexei Navalny est décédé il y a quelques semaines.
Yeah.
Sofia Goubaïdoulina utilise un mélange de textes entre le récit de la passion et l'apocalypse pour plus de noirceur et d'intensité. Mais que dire si un compositeur utilise uniquement le texte de l'apocalypse et intitule quand même son œuvre passion? C'est le cas du très mystérieux Musique Théâtre Passion de Marc-André au titre énigmatique 22-13. Compositeur français naturalisé allemand Marc-André aime les mystères. Lui, le très pieux, aime nimber son œuvre d'une aura sacrée et fragile, à la limite des extrêmes. D'abord, chez André, rien que les titres sont déjà une vraie machine à fantasmes. Les chiffres 22 et 13 renvoient en fait de manière très concrète aux Écritures. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 13, on trouve cette phrase. « Je suis l'alpha et l'oméga. » Le premier et le dernier, la fin et le commencement. Passionné par la musique médiévale, Marc-André compose une tapisserie d'obscurité, avec trois sources d'influence. Pour rendre en son l'Apocalypse de Jean et d'une manière détournée une certaine vision de la Passion du Christ, Marc-André prend appui d'abord sur les images pleines de métaphores du Septième Sceau, ce film d'Ingmar Bergman où un chevalier joue aux échecs contre la mort. Comme un négatif, la deuxième source d'inspiration pour le compositeur, ce sera le combat entre Garry Kasparov et l'ordinateur d'IBM Deep Blue à la fin des années 90. Ce jour-là, la machine d'IBM a vaincu aux échecs le plus grand champion de tous les temps. Enfin, le chemin de croix, la Via Crucis du train fantôme, ces wagons terribles qui, en 1944, ont emmené 57 jours durant, pas moins de 900 habitants de la ville de Toulouse, pour un rendez-vous avec l'au-delà au camp de Dachau. L'œuvre qu'en tire André est, comme à son habitude, un tissage de plaints et de déliés, une calligraphie du temps trouée de douleur, une méditation aux confins de l'âme humaine. Qu'est-ce qui vient de se passer? On n'était pas bien, là, dans les tréfonds de la noirceur avec Marc-André, et là, boum, explosion! Ceci dit, en fait, le seul point commun entre ces deux musiques, c'est qu'elles sont toutes les deux des passions. Vous venez d'entendre un extrait de La Passion selon Saint-Marc, de l'argentin Osvaldo Golijov, et pas n'importe quel passage, la crucifixion. De toutes les passions présentées dans cette émission, celle de Golijov est peut-être la plus œcuménique. Lui, l'Argentin, né de parents juifs de Roumanie pour sa mère et russe athée pour son père, a grandi en Argentine dans un pays au rythme d'un catholicisme hyper présent. La religion est donc une part de son être, mais comme fragmentée. Autant dire que dans sa Passion selon Saint-Marc, Golijov dresse un maillage dense entre traditions d'Amérique centrale et du Sud, coucou les rythmes cubains, jusqu'aux grandes mélodies de la tradition juive. C'est un peu l'esprit de l'œuvre masse de Leonard Bernstein qui traverse cette passion. Une œuvre entre comédie musicale, opéra et oratorio, où Jésus n'est plus un homme blanc pris sur le modèle occidental, mais où ses origines sont métissées et sa peau clairement plus foncée. La passion de Golijov ne se déroule plus dans un paysage mental, mais elle occupe la rue pour aller jusque dans les favelas. Elle quitte l'âme pour prendre l'auditeur à bras le corps et toucher le cœur. Thank you. Tiens, c'est marrant, la passion de Golirov d'après Saint-Marc date de l'an 2000, ok. Celle de Goubaïdoulina d'après Saint-Jean aussi. Étonnant. Et attendez, il y en a d'autres. Pour l'arrivée du nouveau millénaire et célébrer les 250 ans de la mort du maître de Leipzig, l'Académie internationale Jean-Sébastien Bach commande des passions bien sûr. Un passion project se met en branle et donne le jour à une bonne partie de notre programmation d'aujourd'hui. Écoutons donc une autre œuvre créée dans ce cadre. Après l'ambiance orthodoxe et les rythmes latinos, bienvenue dans le monde polymorphe de l'allemand Wolfgang Grimm. Deus Passus, Passion selon Saint-Luc. À l'instar de Goubaïdoulina, Wolfgang Grimm compose une œuvre monumentale qui a tout du labyrinthe. D'abord, car Grimm utilise les textes de l'Évangile dans la traduction de Martin Luther et des écrits de Paul Celan, conflagration des époques. Ensuite, car, comme à son habitude, Grimm écrit une œuvre où les styles se mélangent. La preuve, après ce début presque post-romantique façon Richard Strauss, on entend une musique qui aurait pu être signée par Stockhausen. Et ça continue dans le numéro suivant, avec un vrai faux choral harmonisé en mode destroy. Thank you. Ce qui est bien avec Wolfgang Grimm, c'est que quoi qu'il fasse, on le reconnaît. Et surtout, au-delà de son style sans style, il y a un je ne sais quoi d'épais, de puissant, de spirituel, que l'on reconnaît instantanément dans sa manière de composer. Pour sa passion, Grimm écrit une musique qui apparaît immédiatement barbelée comme la couronne d'épines, doloriste façon madrigal de Monteverdi, puissante comme du Bach, épaisse comme du Brahms, et lyrique comme la Loulou d'Alban Berg. Dans ma ville natale, en Chine, dans les temps anciens et même dans mon enfance, les gens allaient toujours à la rivière pour laver le riz avant de le cuisiner. Ils lavaient leurs vêtements dans la rivière, ils y lavaient aussi leur corps. On peut dire qu'à l'époque, je vivais avec l'eau, je jouais avec l'eau, j'écoutais l'eau. C'était très important pour moi. Il y a 3 ou 4 ans, lorsque ma femme était enceinte, nous sommes allés chez le médecin pour qu'elle puisse faire une échographie. Et j'ai pu y voir ce merveilleux bébé et entendre son cœur. Mais soudainement, j'ai entendu le beau chant de l'eau et j'ai réalisé une chose. Il s'agit du son que tous les humains entendent en premier. À cette période, on venait de me passer commande de la Water Passion. Je me suis alors dit, je dois commencer avec le son de l'eau. C'est le commencement, et le commencement est aussi la fin, et la fin est aussi le commencement. Voilà le sens de la résurrection. La résurrection n'est pas simplement une nouvelle vie, mais c'est une nouvelle idée. Tan Dun, à propos de sa Water Passion, d'après Saint Matthieu. À grand renfort de percussions spatialisées en forme de croix, de gongs immergés dans l'eau, de violons imitant le héros chinois, de chanteurs classiques à l'européenne et de techniques de chant mongol, Tan Dun crée une œuvre qui traverse les frontières. Dernier volet du projet Bach de l'an 2000, la Water Passion d'après Saint Matthieu est l'occasion pour Tan Dun de dresser une espèce d'état des lieux de son art qui n'hésite pas à lorgner parfois du côté du crossover. Cette musique est l'œuvre d'un musicien élevé dans un pays communiste qui n'a entendu Bach qu'à l'âge adulte. C'est aussi l'œuvre d'un musicien sensible à la musique minérale qui nous hypnotise. Mais allez, chers auditeurs, pour terminer cette émission passionnante, je vous propose de pénétrer les arcanes d'un vrai chef-d'œuvre de notre temps. The Gospel According to the Other Mary, l'Évangile selon l'autre Marie. L'autre Marie, c'est Marie-Madeleine. Sa famille, sa sœur Marthe, son frère Lazare, qui seront au cœur du drame noué par l'Américain John Adams sur un livret original de Peter Sellars, qui allie aux textes sacrés des poèmes et textes divers, notamment en espagnol par Rosario Castellano, ou des textes anglais de Dorothy Day, avec notamment le prisme d'une pensée féministe. L'autre Marie de John Adams, c'est en fait le pendant de El Niño, l'oratorio de la nativité qu'Adams avait signé pour l'an 2000. Le compositeur reprend le dispositif imaginé alors. Soliste, chœur, orchestre, ici avec en plus une basse électrique et un cymbalum, mais surtout, pour dire le texte de la Bible et jouer entre guillemets le rôle de Jésus, il donne la parole non pas à un baryton basse comme le faisait Bach ou Pärt ou Gubaidulina, mais plutôt à trois contre-ténors, toujours écrits en homorythmie, ce qui donne une impression hallucinante, comme un ange à trois têtes se déployant. Un peu dans le genre des sonorités de Passio d'Arvo Pärt que l'on entendait tout à l'heure. Le plus beau passage avec ses trois contre-ténors, sans aucun doute la scène de la crucifixion. Après plus de 15 minutes de montée en tension, que faire comme sommet dramatique? Comment imager musicalement un moment aussi fort? Golirov s'était lancé dans un mambo terriblement vivant. Adams, lui, écrit 2 minutes en apesanteur, en vieil anglais, une musique ponctuée par des appels déchirants de hautbois qui évoquent immanquablement la musique de Jean-Sébastien Bach. Et Jésus vit sa mère et il dit « Mother, behold thy son. Mère, voici ton fils. » La partition de John Adams s'extrait très largement de son habituelle technique minimalisto-groovy pour donner certains des passages les plus libres de son langage musical, et sans doute parmi les plus inoubliables de toute sa production. La toute fin de l'œuvre, le moment où l'autre Marie reconnaît le Christ ressuscité, est un sommet d'orchestration. Adams écrit littéralement les raies de lumière surnaturelles et le vent chaud qui souffle sur l'entrée du tombeau vide. Les dernières paroles de l'œuvre sont aussi les plus belles. Un simple prénom pour renvoyer à l'absolu.
Jesus standing, Jesus standing.
Les dernières minutes de The Gospel According to the Other Mary, l'évangile selon l'autre Marie de John Adams, ici par l'équipe de la création, et c'était rien de moins que le Los Angeles Master Choral et le Los Angeles Philharmonic, dirigés par Gustavo Dudamel. Et c'est ainsi que se referme ce carrefour de la création, tout de Pâques vêtu. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Stéphane Touvenin, attaché de production Colline Redon, une réalisation de Céline Parfonoff.
À réécouter sur francemusique.fr.